Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour pour nous, Seigneur. Nous voici encore une fois devant ta face, Seigneur notre Dieu, pour essayer d'étudier ta parole, mieux te comprendre, Éternel notre Dieu, pour nous approcher encore davantage. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour pour nous, Seigneur. Bénis ces instants, Éternel notre Dieu. Bénis également tous ceux qui sont ensemble avec nous, Seigneur, pour méditer ta parole. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Éternel, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde d'être là à cette réunion. Plus
Merci.
particulièrement notre sœur Rosalie qui vient s'ajouter à nous après que la sœur Petronelle soit partie. Elle est là avec nous et nous bénissons le Seigneur.
Amen.
Amen. Maintenant, prenons notre texte du jour, frères et sœurs. Nous sommes à Marc au chapitre 10. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 32 et nous allons nous arrêter au verset 45e. Donc, je vais demander à notre sœur Pétronelle, tu étais au chômage, comme tu es rentré à Tour du Pin, tu peux nous lire maintenant.
Merci, Papa Célestin, pour la lecture. Nous lisons dans le chapitre de Marc, au chapitre 10, à partir du 32e verset jusqu'au 45e. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Jésus annonce une troisième fois sa mort et sa résurrection. Ils étaient maintenant sur le chemin qui monte à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient remplis de crainte et ceux qui le suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les 12 disciples avec lui et se mit à leur parler de ce qui devait bientôt lui arriver. Il leur dit: Écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et après 3 jours, il reviendra à la vie. La demande de Jacques et Jean. Ensuite, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus. Ils lui dirent: Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Que voulez-vous que je fasse pour vous? leur dit Jésus. Ils lui répondirent: Quand tu seras dans ton règne glorieux, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Mais Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir? Et ils lui répondirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit: Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples, le commandent à maître. Et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme, lui-même, n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer beaucoup d'hommes. Parole du Seigneur.
Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci pour la lecture, ma chère Petronelle. Frères et sœurs, si vous êtes joints à nous, vous avez attrapé le train en cours des routes. Nous sommes à Marc, au chapitre 10. Nous avons écouté la lecture à partir du verset 32 jusqu'au verset 45e. Et notre texte, comme vous pouvez le voir dans votre Bible, est divisé en deux parties. La première partie qui va du verset 32 jusqu'au verset 34e, là ça concerne la troisième fois que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. La deuxième partie qui va du verset 35 jusqu'au verset 45e, là il s'agit d'un problème qui va être déclenché par les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ensuite, le Seigneur va profiter de cela pour enseigner à ses disciples qui sont en train déjà de chercher le positionnement. Deux questions nous ont été posées. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Mais aussi la question 7, en quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Notre première partie, ça concerne, comme je disais, la mort et la résurrection de notre Seigneur qui est annoncée. La première fois, en Marc au chapitre 8, le verset 31, là, le Seigneur a annoncé pour la première fois sa mort et sa résurrection. La toute première fois, il y avait vraiment une réaction qui n'était pas appréciée par le Seigneur, c'était Pierre. Il s'était opposé à ce que le Seigneur souffre et connaisse la mort et les souffrances qui précédaient cette mort. Alors le Seigneur avait énergiquement parlé à Pierre pour lui dire « Arrière de moi, Satan ». Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. La deuxième fois, c'est Marc au chapitre 9, le verset 31. Là, c'est la deuxième fois qu'il leur annonce encore sa mort et sa résurrection. Cette fois-ci, parce qu'il s'était déjà opposé énergiquement à la première annonce, il n'y a pas eu d'opposition des disciples. Nous sommes là à la troisième annonce de sa mort, du verset 30 jusqu'au verset 32. Donc nous pouvons commencer par partager cette première partie. Ensuite, nous aborderons la deuxième partie avec les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Voilà, cela dit, frères et sœurs, nous pouvons maintenant demander la parole, elle nous sera accordée pour le partage. Quelques instructions méritent d'être rappelées. La première instruction, c'est que nous sommes nombreux, beaucoup de maisons connectées ce soir, et dans chaque maison, il n'y a pas seulement une personne, il y a deux ou trois, ou même plus. Donc pour dire, nous sommes déjà une trentaine ou une quarantaine connectés ce soir. Devant mon écran, j'ai au moins 12 maisons déjà connectées et des gens continuent à s'ajouter pour dire que nous sommes déjà nombreux connectés ce soir. Donc, quand vous prenez la parole, essayez de chronométrer pour que ça soit vraiment réduit. Nous pouvons revenir plusieurs fois quand nous méditons. Mais chaque intervention, il faut qu'elle soit courte pour permettre à plusieurs d'intervenir. La deuxième instruction que nous pouvons donner, c'est que quand nous sommes à la première partie, terminons la première partie avant d'aller à la deuxième partie, ainsi de suite. Voilà cela dit. Et pour prendre la parole, quand une personne est en train de parler, vous pouvez regarder le clavier de votre téléphone, vous appuyez sur l'étoile et les chiffres 2, et moi je verrai sur mon écran un signe qui va me faire que telle personne est en train de demander la parole. Voilà, frères et sœurs, bienvenue à tous ceux qui se sont ajoutés après la lecture. Nous sommes en Marc au chapitre 10, du verset 32 jusqu'au verset 45e. Voilà, cela dit, nous pouvons commencer maintenant. Frère Denis, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, Pasteur Philippe, pour avoir donné la parole. Moi, donc, sur le verset 32, quand nous lisons que Jésus nous montre un exemple là, et en lisant ce verset 32, on voit, ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples. Et je me suis arrêté sur Jésus marcher devant eux. Alors, voilà, Jésus nous montre l'exemple, il ouvre le chemin. Il ne se contente pas de prêcher le don de soi, hein, mais il montre l'exemple. Hein, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et moralement. Il marche devant, il nous offre là plus que ce qu'il a demandé au jeune homme riche, hein, de l'abandon de richesse, hein, donc au verset 21 du même chapitre, ou à ses disciples la perte de certaines relations au verset 29 du même chapitre. Donc le Seigneur sacrifie ce qu'il a de plus précieux, sa vie. Il n'y a pas de plus, comme par exemple Jean 15 nous dit, 15 verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc là, le Seigneur vraiment nous montre l'exemple que nous pouvons prêcher, mais si nous ne vivons pas ce que nous prêchons, eh bien, nous prêchons dans le vide, comme au camp, le pasteur Luc nous avait dit que la connaissance extérieure doit être vraiment devenir cette connaissance interne, donc descendre en profondeur pour la mise en pratique. Voilà ce que
Amen.
j'avais à partager.
Merci. Merci beaucoup, Frère Denis. Ça, c'est vraiment la mise en pratique que le Seigneur est en train de nous montrer. Il est en tête. Pourtant, il ne va pas dans une fête. Il leur a déjà dit que il va y avoir une situation tragique, mais il est en tête, il montre l'exemple, il veut affronter ce qui va arriver, il donne l'exemple. Merci beaucoup, Denis. Nous continuons suivant l'ordre d'arrivée. Pasteur José des États-Unis, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, merci beaucoup, pasteur, bien-aimé. Je suis encore au verset 32. Pour élever la réaction des autres de cette route-là. Le Seigneur est devant, comme le frère l'a bien montré. Les disciples sont inquiets. Et puis, la foule, ceux qui le suivaient, avaient peur. Nous, qui n'étions pas là, nous avons de la peine à comprendre les différentes réactions. La peur du peuple et l'inquiétude des disciples. Et même le fait que lui, le Seigneur, soit devant, c'est ce qui n'arrive pas souvent. Il est en général marcher ensemble, marche ensemble avec les autres. Mais ici, il y a une distance. Il est devant. Et ses disciples sont inquiets et la foule a peur. A peur. Donc, pour essayer de comprendre tout cela, cette ambiance, il faut descendre pour savoir. Parce que, comme le modérateur l'a dit, le Seigneur a déjà annoncé la mort, sa mort, à deux reprises. Et il va bientôt annoncer pour la troisième fois. Entre la dernière annonce et la deuxième, il y a une ambiance qui se crée là-bas. Le Seigneur seul devant, les disciples inquiets et la foule appelle à peur. Ceci peut nous dire que oui, c'est vrai, c'est bien les sentiments de cette mort prochaine qui envahit tout le monde. Les autres, les disciples, sont inquiets parce que le Seigneur va mourir et ils vont rester. Ce sera comment? Et la foule, il a peur. Mais s'il meurt, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, tout ça, c'est autour du Seigneur qui est devant, comme l'a souligné le frère. Avec nos inquiétudes, avec notre peur, suivons toujours le Seigneur. Amen. Suivons toujours le Seigneur et lui-même va nous donner ce dont nous avons besoin. Ne nous écartons pas lorsque nous sommes inquiets et ne nous éloignons pas de lui lorsque nous avons peur. Merci.
Merci, merci beaucoup. Ne nous éloignons pas du Seigneur. Nous ne reculons pas. Seigneur, c'est que nous devons savoir que les inquiétudes et toutes sortes de peurs font que Dieu ne sait pas agir dans la plénitude dans notre vie quand nous avons peur, quand nous avons des inquiétudes. Ce sont des éléments qui annulent complètement la foi ou la confiance en Dieu.
Amen.
Donc, nous devons regarder quand nous sommes en train d'affronter une situation, nous avons peur, qu'est-ce qui va arriver après? Nous avons peur, ainsi de suite. Cette peur-là fait que nous annulons la confiance que nous avons en Dieu.
Amen.
Dans beaucoup de situations, le Seigneur a toujours dit, pourquoi tu as eu peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous êtes consterné? Il a toujours reproché aux siens devant des situations difficiles. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons avec toutes les demandes de paroles. L'équipe de Verviers, est-ce que c'est Maman Christine qui veut parler? Est-ce que c'est Hubert? Est-ce que c'est sur le lit?
Oui, merci, Pasteur Célé, pour la parole. C'est Maman Christine, bien-aimée dans le Seigneur. Je suis au verset 33 et je vais aussi aller, disons, parce que même idée au verset, je vais opposer ce verset disons 33, 34 ou à 35, à 36. Ici, vraiment, je suis touchée de voir que le Seigneur, comme on dit, le bien-aimé devant, prend son courage pour annoncer encore pour la troisième fois ce qui va lui arriver, pour dire qu'il était réellement Dieu et il connaissait ce à quoi, disons, la situation qui était devant lui. Et d'ailleurs, c'est l'objectif même de sa venue sur cette terre. Alors, le verset 35, c'est quoi? Deux choses, je peux dire vraiment, comme on peut dire même, c'est hors sujet. Pendant que le Seigneur annonce la mort, sa résurrection, sa souffrance, tout ce qu'il va subir, au lieu que ça existe dans le cœur de ses disciples qui avaient déjà l'inquiétude, dans ma Bible, ils s'effrayaient aussi, ils étaient effrayés, mais Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus pour lui demander de faire une demande. Donc, on dit comme s'ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Donc, pour moi, c'est vraiment comme une interpellation. Mais est-ce que je sais lire et sentir qu'est-ce que Dieu veut exactement pour moi? Ou je suis comme eux, ici, qui ne voient pas l'importance. Ce que Jésus a annoncé, c'était capital. À chaque fois qu'il annonçait, comme si pour les disciples, c'est autre chose. D'abord, nous voulons que tu nous places l'un à gauche, l'un à droite. Mais ce que bien aimé, je me disais, ce n'est pas ça qui est maintenant dans mon cœur, ni dans le ministère. On veut être positionné au lieu de comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement de moi. Amen.
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 Amen. Merci, merci beaucoup. Donc, Maman Christine a fait une connexion entre la première partie et la deuxième partie pour voir un sujet capital qui est placé sur la table et on dirait que ça ne préoccupe pas les deux fils de Zébédée et c'est le pouvoir qui les intéresse. Pour dire, je vois un message là. Ok, merci. J'ai vu Papa Mike, vous êtes maintenant sur le portable. Merci, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une grande leçon pour nous, frères et sœurs. Chaque fois que le Seigneur voudrait vraiment nous donner des leçons importantes dans notre vie, des fois, nous passons vraiment de côté et nous sommes en train d'embrasser autre chose. Et ça, c'est ce que ces deux fils de Zébédée sont en train de nous montrer. Voilà, cela dit, nous pouvons attaquer cette deuxième partie, nous pouvons continuer. Mais si nous avons quelque chose à approfondir sur les souffrances que le Seigneur montre concernant sa mort, nous pouvons toujours revenir. Voilà, je donne maintenant la parole à Papa Jean-Pierre. Vous avez la parole, s'il vous plaît.
Ok, merci, Pasteur Célé. Donc, oui, plusieurs choses à souligner, mais enfin, je ne veux pas trop élargir. Beaucoup de choses ont été déjà soulignées. Oui, le Seigneur est en route vers Jérusalem. J'ai entendu que le tableau qui est donné à Jérusalem, ce n'est pas pour aller fêter, ce n'est pas pour aller être élevé comme roi ou être reconnu comme fils de Dieu, mais plutôt où il va souffrir et il sera entre les mains des païens où il va souffrir. Donc, il est en route et Jésus marche, il marche en tête. Et c'est la seule, une chose que je voulais souligner sur ce texte-là, c'est tout simplement qu'il raconte, Christine vient de le dire, troisième fois les souffrances. C'est dit dans le texte, tu l'as dit à l'introduction, troisième fois la passion de ces souffrances. Ce n'est pas seulement pour gargariser ou rabâcher les souffrances comme une sorte de flagellation sur lui, mais c'est pour rappeler que les prophéties vont s'accomplir. C'est aussi une idée qui est là très clairement, et je crois que c'est souligné plutôt en Luc, dans la version de Luc 18, 31, où il est dit que Il dit, il rappelle ce qui est écrit sur lui, qu'il va souffrir. C'est Ésaïe 53 qui est peut-être relevé là. Voilà, il sera livré entre les mains des païens, entre les chefs, entre les méchants du peuple, et qui vont le tuer, qui vont l'éliminer. Et cela peut nous rappeler que c'est pour nos péchés qu'il va à Jérusalem. Mais je voulais souligner cette pensée du fait qu'il ne gargarise pas, il ne rabâche pas les souffrances. Mais c'est pour rappeler les prophéties, pour dire que ce qui a été dit sur lui va se réaliser. Et donc, pour nous, de nous rappeler que justement, il y a peut-être des souffrances, il y a des moments de difficulté, mais la parole de Dieu se réalisera. Les prophéties qui ont été dites pour le Seigneur vont se réaliser. Il va revenir bientôt et vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de rébellion dans les enfants et les gens, même dans les églises. S'il n'avait pas été donné aux élus, au Seigneur, d'abréger ce temps de souffrance, même les élus, ils vont tomber. Donc, les prophéties du Seigneur se réalisent toujours. Donc, nous, on est là, non pas pour rabâcher ces choses-là et puis avoir peur, mais pour nous rappeler que les prophéties vont se réaliser. C'est l'idée que je voulais souligner avant de passer à l'autre partie.
Merci, merci beaucoup. Et nous sommes en train de voir là la fidélité de Dieu qui le rappelle aux siens la troisième fois combien réellement vont accomplir ce qui a été dit sur la vie sa propre vie en fait. Alors, je voudrais donner une autre information. Là, c'est pour donner une réponse à la question qui m'a été posée. Pourquoi mon micro est mis sous mute ou mon haut-parleur est quelquefois coupé? Papa Jean-Pierre, donc, quand je gère la réunion, en même temps, je suis en train de suivre le bruit. Il y a certains téléphones qui se font conflit et qui créent le bruit à la réunion. C'est ainsi que vous verrez à un certain moment, si vous avez l'écran, vous pouvez voir votre haut-parleur qui est mis en rouge, c'est-à-dire qu'on a mis en mute, parce que ça crée le conflit avec un autre téléphone. Mais au moment de parler, on va vous démuter et ça ne va pas déranger la réunion. Voilà, c'était pour donner la réponse à papa maman et la question qu'il m'a posée en chat, quoi. Voilà, la personne suivante, c'était notre sœur Christine d'Angleterre, mais elle est coupée. Nous allons lui donner la parole dès qu'elle revient. Des fois, la technique a des caprices comme ça. Voilà, quand je parlais, elle est revenue. Maman Christine, tu étais coupée il n'y a pas longtemps.
Oui, papa.
Oui, tu as la parole.
Merci, papa, pour la parole. Bien-aimé, papa, avec votre permission, j'ai juste un petit mot qui me brûle à cœur sur 33-34. Donc, c'est okay. Concernant la vie du Seigneur. Le Seigneur, en tant que papa, en tant que chef, en tant que leader, il a gardé une attitude positive malgré ce qui allait lui arriver dans quelques temps. Et c'est rassurant de le voir aussi prendre ceux qui étaient vraiment plus près de lui, ceux qu'on peut appeler ses proches. Il les a pris à part, il leur a parlé avec assurance. Donc c'était une façon de les réconforter, bien-aimés. Et moi, quand les bien-aimés intervenaient, vraiment mon cœur a vibré. C'est pour dire que si tu as des problèmes, tu as des inquiétudes, tu es vraiment dans une situation difficile et qu'il y a un frère ou une sœur qui vient vous réconforter, bien-aimés, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est pourquoi je peux enchaîner disant, mais il faut faire un lien avec le verset 35 et 36 où ces deux frères demandent d'être trouvés à gauche, à droite. Leur attitude bien-aimée, j'ai trouvé ça vraiment, c'est une bonne attitude aussi, d'avoir ce courage et cette confiance de s'approcher au Seigneur pour demander quelque chose, comme la Bible nous le dit. Ils se sont approchés, malheureusement, ce qu'ils ont demandé, ce n'était pas une bonne chose, mais ce qui m'a plu, c'est leur attitude. Donc, l'attitude du Seigneur lui-même, et l'attitude de ces deux frères m'a beaucoup plu. Donc, c'est une attitude positive, une attitude pleine de confiance que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, avoir au lieu de pleurer, au lieu de nous inquiéter, raconter même aux païens qui ne peuvent rien faire pour nous. Merci, bien-aimé.
Merci. Merci, merci de nous montrer l'attitude de ces deux personnes, malgré leur demande qui est vraiment, on dirait une demande vraiment à gauche, mais ils ont le courage de s'approcher. Et nous, s'approcher auprès du Seigneur, c'est comme entrer dans un moment de prière, entrer dans un moment d'intimité avec Dieu pour lui dire tout ce qui nous dérange. Au lieu de se plaindre chez les hommes, il faut venir auprès du Seigneur comme ils l'ont fait. OK, en tout cas, merci beaucoup. Nous continuons. Avant même d'aller en profondeur dans la deuxième partie, le Seigneur, versets 33 et 34, est en train de décrire la description de tout ce qu'il va connaître. Il va connaître toutes sortes de souffrances, toutes sortes de moqueries. On crachera sur lui, on va le flageller, ainsi de suite. Mais à la fin, il conclut en disant, il ressuscitera. Voilà sa conclusion, il ressuscitera. Et nous verrons un peu plus tard, quand tout ceci va arriver, on dirait que le message ne passait pas. On dirait qu'il n'avait rien compris du message qui avait été donné. Alors, la leçon que je tire, c'est que des fois, nous pouvons lire les Écritures. Nous devons vraiment demander au Seigneur de nous enseigner, d'ouvrir notre entendement pour que nous comprenions où est-ce que le Seigneur veut nous amener. Même si nous avons déjà fait du chemin avec le Seigneur, comme les disciples, il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à comprendre.
Amen.
Merci beaucoup. Nous donnons la parole à notre sœur Jacqueline. Massa, tu as la parole, ma sœur.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je voulais souligner seulement une chose ici. Lorsque Jacques et Jean demandent au Seigneur de partager, d'être assis à droite et à gauche quand le Seigneur sera dans sa gloire, moi, je vois ici un autre aspect. Je vois l'attitude de nous, les chrétiens, souvent, nous voulons partager la gloire de Dieu, mais sans partager la souffrance, sans passer par la souffrance. Parce qu'ici, il demande à partager, à être à gauche et à droite, tant le Seigneur sera dans la gloire. Mais avant ça, le Seigneur est en train de parler de tout ce qu'il doit souffrir avant d'arriver à cette gloire. Et eux, ils ne s'intéressent pas à ça. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais l'attitude des chrétiens, souvent, nous ne voulons pas souffrir pour le Christ, mais nous voulons voir la gloire de Dieu. Et moi, c'est cette attitude que je voudrais souligner dans ce passage, dans ce verset 37. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Jacqueline. Jacqueline, parce que nous avons une autre Jacqueline de Liège. Ça, c'est Jacqueline de Texas, à Dallas. Donc, c'est vraiment une réalité, dans le sens qu'ils sont en train de faire une demande et le Seigneur va leur montrer, mais vous ne savez même pas ce que vous demandez.
Ouais.
Tout simplement parce que ils ont une autre compréhension de la gloire. Ils sont en train de s'attendre, rappelons-nous, quand nous aurons terminé, de lire en Luc 24 sur les disciples qui étaient en train de parler sur la route d'Emmaüs. Nous allons comprendre que pour eux, la gloire ici, c'était que le Seigneur allait prendre l'autorité, il allait les arracher des Romains. Et c'était une autre gloire qu'ils avaient. Voilà pourquoi le Seigneur leur dit, vous ne savez même pas ce que vous demandez. Oui, et puis après, il y a les souffrances. Des fois, nous voulons voir les grandes choses avec le Seigneur, mais nous ne voulons pas souffrir pour le Seigneur. Merci, merci beaucoup. Nous continuons. Maintenant, c'est notre sœur Rosalie qui y a la parole, s'il te plaît.
Merci.
Sœur Rosalie, est-ce que tu as demandé la parole?
Oui, merci mon frère pour la parole. Merci beaucoup.
Ok, allez-y.
Oui, moi, j'appuie ma sœur qui vient de parler parce que moi, je suis au 41. En fait, c'est vraiment ce qui m'a touchée, c'est le verset 41. Là où la parole de la Bible dit, les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean.
Mm.
Moi, je crois qu'ils avaient vraiment raison de s'indigner. Parce que comme ce que vient de dire ma sœur, le Seigneur n'a pas caché sa souffrance. Le Seigneur avait tout exposé. Il a expliqué tout ce qu'il allait souffrir. Et c'est comme aussi ce que mon frère a dit au début, la seule chose qui les préoccupait, c'était leur position, c'était la gloire. Et comme vous venez de dire, Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un homme.
Mmh.
Moi, je voudrais rajouter ce tuto que tout ce que nous faisons, quoi que nous faisons, doit être pour la gloire de Dieu. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu et non et chercher notre propre gloire pour être assis dans sa gloire et regarder tous les autres compagnons qui sont avec nous pour qu'ils soient peut-être à notre service. Et le Seigneur a vu tout cela, c'est ainsi qu'il va les enseigner après concernant leurs demandes. Merci beaucoup, ma sœur Rosalie, pour ta contribution ce soir. Voilà, nous revenons maintenant, encore maman Christine, ou disons l'équipe de Verviers, vous avez la parole là-bas.
Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir, c'est le frère Hubert ici.
Ok, allez-y, papa Hubert.
J'aurais bien voulu qu'on avance, mais je tiens quand même à revenir un peu sur l'attitude de Jean et Jacques, bien la souligner aussi que ce qu'a dit, tout ce qu'a dit nos sœurs, c'est pas pour les contredire.
C'est ça.
Tellement, nous formons le corps du Christ. Je vois l'attitude de Jacques et Jean. En continuant, on dit que ce sont les fils des Zébédée.
Mmh.
Donc, ils étaient frères. Mais dans le groupe, en tant que les douze, le fait que les autres disent, les reprennent pour dire que nous sommes indignés par rapport à votre comportement, Jésus les a repris après. Donc, quelque part, c'était une bonne attitude. Mais quand nous formons le corps de Christ, par rapport, s'il y a un problème, nous devons prendre la décision, prenons-les ensemble. Ils pouvaient aussi dire, Seigneur, pourquoi vous ne nous mettez pas six à côté et six à côté aussi? Comme ça, nous partageons tous ta gloire. Mais eux, ils ont voulu partager la gloire de Jésus, un à gauche et l'autre à droite, les deux. Mais les dix autres les reprennent. Pas après que le Seigneur leur a dit, ben voilà, voilà. Donc, l'attitude est bonne. Mais nous formons le corps de Christ quand nous sommes ensemble. Parfois aussi, il faut voir l'intérêt de l'ensemble, quel est l'intérêt de deux seulement. Ou même, vous pouvez vous retrouver dans un groupe, vous êtes dans l'église, vous êtes peut-être à 20, vous devez faire un voyage. Au moment où vous vous retrouvez à prendre une décision, vous payez seulement deux billets pour vous, frères et sœurs, alors que nous sommes ensemble. Nous devons aussi avoir l'intérêt de l'ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec. Sinon, les dix autres n'allaient pas les répondre. Comme quoi qu'ils étaient indignés de leur comportement. Voilà ce que je voulais seulement souligner.
Ok, merci beaucoup, frère Hubert. Les deux frères, Jacques et Jean, pourtant, il y a les autres qui sont là. Pourquoi il n'a pas pris Pierre pour dire Jacques et Pierre? Ou bien Jean et Matthieu ou un autre. Donc, il prend seulement son propre frère. Et c'est ça que nous voyons même aujourd'hui dans l'Église. On veut seulement que ce soit mon frère de sang qui soit à côté de moi. Ou que ce soit dans le service. On veut toujours quelqu'un de chez soi. Les autres n'ont pas quelque chose à dire. C'est pour cela que les autres sont indignés. Mais pourquoi il prend seulement son frère? Pourquoi il ne prend pas quelqu'un d'autre? Et ça, c'est courant dans l'Église où on veut travailler seulement avec les siens, avec les gens de sa tribu, avec les gens de sa race, avec les ainsi de suite. C'est courant dans l'Église. Mais le Seigneur va profiter de cela pour enseigner. Il faut voir l'intérêt de tout le monde au lieu de voir l'intérêt égoïste de sa propre famille. Ok, merci beaucoup. Nous sommes en train de chercher à cheminer. Regardons aussi vers la fin pour voir comment le Seigneur va enseigner concernant celui qui est le plus grand. Voilà, c'est maintenant Papa Jean-Pierre, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, merci. Merci au frère qui vient de parler tout à l'heure. J'ai compris qu'il est de Verviers.
Oui, c'est le frère Hubert, oui.
Le frère Hubert, oui, qui veut qu'au moins 6 à gauche et 6 à droite, au lieu qu'un à droite, un à gauche.
Oui, c'est ça.
J'ai l'impression que je ne sais pas si, oui, il y a ces bonnes intentions qu'on a, mais en regardant, bien, tu viens de le dire, Fessele, que effectivement, c'est ça le sentiment, l'esprit qui nous anime, qui anime même les gens aujourd'hui, même dans l'Église, c'est de chercher le frère, de chercher celui de son clan, celui de sa famille, pour être dans la gloire avec lui. Et donc, ces deux frères d'une même famille qui font la démarche, ils disent, nous désirons que tu fasses quelque chose pour nous. Ils demandent à Jésus de faire quelque chose. Moi, la question donc que je me posais, c'est de savoir comment, qu'est-ce que nous nous apprêtons à demander à Jésus. D'ailleurs, plus loin, quand il va dire, qu'est-ce que vous désirez que je fasse pour vous, au verset 36. Qu'est-ce que vous désirez que je fasse pour vous? C'est une question adressée à Jacques et Jean, mais c'est une question adressée même à nous aujourd'hui. Et comme nous avons tellement de désirs, et le Seigneur nous pose cette question. Et que ce soit dans la démarche, même là, quand nous sommes avec Fimes, tout cela, ou dans nos démarches familiales, il y a cette question de Jésus, qu'est-ce que vous désirez? Souvent, même ce matin, nous avons eu des désirs à lui adresser, à lui demander. Et nous pouvons méditer sur les désirs que nous voulons présenter au Seigneur. Et il me semble que notre problème, le problème de l'homme qui n'a pas fini depuis 2000 ans, même avant ça, c'est justement de ne pas bien discerner quels sont les désirs qu'il faudrait demander au Seigneur. Et nous avons besoin vraiment que Dieu nous fasse grâce, que l'Esprit de Dieu nous aide à exprimer les désirs qui sont proches de son cœur et ne pas divaguer, ne pas se disperser. Le problème, ce n'est même pas... Moi, ce qui m'a choqué, ce n'est pas le fait qu'ils font cette démarche, mais qu'ils la font, vous voyez, après le 33, là, que nous venons de partager. Leur ami, Jésus, c'est leur ami, il dit, je vous appelle mes amis. Il partage avec eux. Nous avons dit que c'était la prophétie, c'était les paroles de prophétiques qui étaient dites à son sujet. Et ils ont dit qu'ils reconnaissaient qu'il était le maître Seigneur. Mais malgré cela, ils ne peuvent pas partager avec lui un peu de sentiment, un peu d'émotion de ce qu'il dit, de ce qu'il va souffrir. D'ailleurs, dans le texte de Luc, vous savez qu'il est dit, ce n'est pas seulement les deux, c'est que tous les autres, ils se posaient la question, qui peut être plus grand parmi eux? Alors même qu'il leur dit, c'est mon corps, il va être brisé pour vous. Il parle de Isaïe 53, il parle de ses souffrances. Et on a du mal à entrer avec lui, même ne fût-ce qu'un peu de temps, pour rentrer, avoir le sentiment de ce qu'il a. Et on dit, mais je veux être à gauche, à droite, dans le royaume. Donc, comme tu as dit, la gloire. Et combien nous-mêmes, nous voulons la gloire. La gloire, elle n'est pas cherchée. Peut-être c'est cela qui fait de vous chercher chaque jour, même chaque matin, pendant la méditation, quel est le cœur de Dieu, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'il veut me communiquer réellement, au lieu de chercher tout ce qui me vient à l'esprit. Et on dit les frères, les autres s'indignent. Et moi, je pense que nous devrions justement, parfois même dans l'expression de nos désirs, parfois dans les prières, combien de fois nos prières peuvent indigner d'autres? Combien de fois ce que nous demandons à Dieu peuvent indigner d'autres, des frères qui sont avec nous dans l'Assemblée.
Ouais,
Donc, je crois que c'est une démarche qui peut nous aider à un peu être humble, et puis parce que parfois ce que nous disons peut-être peut choquer ou les autres ne comprennent pas forcément. Mais on est tellement excité dans notre compréhension et qu'on y va, et puis on ne sait pas comment les autres vivent ça. Voilà ce que je peux dire. C'est ouvert.
Merci beaucoup, papa Jean-Pierre, de voir combien l'homme veut toujours être grand, veut toujours chercher ce qui est plus grand. C'est pas pour rien que des fois, même Jacques va dire, mais des fois nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que nous demandons mal. Des fois, nous sommes toujours tournés à moi, à nous, mais pas à ce qui concerne le royaume, à ce qui concerne l'intérêt de tout le monde. Toujours moi. Nous désirons que tu nous mettes ou que tu me mettes. Des fois, nos prières sont tellement égoïstes que nous sommes très, très limités avec tout ce que nous demandons à Dieu. Ça, c'est vraiment très, très profond dans le sens. C'est ça que le Seigneur nous demande, nous pose comme question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as comme désir? Mais des fois, ce que nous sortons, c'est seulement nos intérêts personnels et rien du tout qui concerne le royaume des cieux, rien du tout qui concerne Dieu. Merci beaucoup. Essayons de toucher à l'enseignement du Seigneur concernant le plus grand vers la fin, comme ça nous allons terminer. Voilà, nous rentrons encore avec notre frère Denis. Denis, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, merci Frère Salé pour la parole. Et aussi quant pour les autres disciples. Mais pour ceux qui étaient d'être, donc pour eux aussi, les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Donc là, on voit aussi que leur attitude n'était guère meilleure que celle du fils de Zébédée, car eux aussi aspiraient aussi aux premières places. Et là, donc, je vais enchaîner directement avec le verset 43-44 où le Seigneur va donner l'instruction sur la vraie grandeur.
Ouais. Hein?
Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave, l'esclave de tous. Là, on voit bien Jésus qui va encore poursuivre en donnant son exemple personnel.
Amen.
Hein? Lui, le Fils de l'homme. C'est lui qui est appelé à dominer éternellement sur le monde. Alors, on voit bien que cet être suprême qui est Jésus-Christ ira jusqu'à donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alors, quand on observe aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent des titres, ils veulent avoir des titres qui, pour être grand, je dois être ou archibishop ou ceci, cela. Donc on veut ces titres-là pour qu'on nous honore, et puis quand l'archibishop arrive, on ne peut même pas l'approcher. Alors que là, le Seigneur nous montre justement que la vraie grandeur, voilà l'exemple à suivre pour quiconque aspire à devenir grand. Et c'est vraiment cet exemple-là qui m'a touché en méditant, voilà l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent devenir grands, eh bien, le Seigneur nous montre l'exemple. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager.
Merci beaucoup. L'exemple du Seigneur lui-même, au verset 45, il leur montre l'exemple, il est venu, pas pour être servi, mais pour servir. Alors là, il a servi, il a tout fait pour leur montrer que le chef, c'est celui qui sert. Le chef, ce n'est pas celui qu'on doit servir. Aujourd'hui, des fois, vous entendrez, les serviteurs de Dieu va entrer, mettez-vous debout. dis, mais comment les serviteurs, ouais, quand ils entrent, comment on doit se mettre debout? Pourquoi on doit porter la Bible du serviteur? Oui. Ok, merci beaucoup, Papa Denis. Nous allons prendre une dernière intervention dans l'équipe de Verviers.
Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis vraiment touchée. Je peux dire que c'est une vérité que je vois ici. À chaque fois, tous les trois fois que le Seigneur a annoncé sa mort, la vérité que je détiens ici, c'est l'insensibilité de ses disciples. Et cette insensibilité, soit c'est ce qui va sortir, c'est leur propre intérêt pour demander qui est le plus grand. Pour dire que, on peut aussi résumer, dire que ce que tu nous annonces là a moins d'importance. Et ce que nous avons besoin, c'est nous d'abord, où est-ce que on sera positionné. Ça m'a beaucoup touché pour dire, mais est-ce que je ne suis pas comme les disciples? Le Seigneur m'a appelé dans son champ pour appeler les autres à les connaître. Mais est-ce que c'est mon souci? Je suis placé sur la terre comme celle de la terre. C'est pour amener les gens à connaître le Seigneur. Mais est-ce que c'est un souci pour moi ou toujours je veux d'abord moi? D'abord ma prière, qu'est-ce que moi je vais devenir? Ou je suis distrait, je ne comprends pas le message principal que Dieu me donne. Ça m'a beaucoup touché pour dire vraiment, Seigneur, comme une prière, aide-moi à saisir ton langage. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons arrêter avec ces quelques mots de maman Christine. Aide-moi, aide-nous à saisir ton langage. Et nous dirions même, aide-nous, Seigneur, à saisir tes priorités. Aide-nous à saisir quels sont tes intérêts. Les intérêts du royaume ne sont pas nécessairement nos intérêts à nous. Quand le royaume de Dieu a besoin de nous, en ce moment-là, nous nous rendons indisponibles. Mais quand nous devons demander pour nos besoins personnels, nous sommes le premier à nous présenter devant le Seigneur. Je veux ceci, je veux cela. Mais pour l'intérêt du royaume, nous reculons. Et même l'évangile que nous voulons, nous, c'est l'évangile sans souffrance, sans difficulté. Et c'est pour cela que quand on parle de souffrance, on parle de difficulté, il faut passer à autre chose. Nous devons savoir qui va être à droite, à gauche, qui va être le plus grand. Même les 10... voudraient voir, mais si jamais le Seigneur accepte leur demande, ils vont être à la droite, à gauche, le premier ministre et même l'autre ministre. Mais nous, où est-ce que nous serons? Ils sont aussi indignés. C'est que c'était aussi leur préoccupation. Le Seigneur, quand il enseigne que celui qui veut être plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur, il n'enseigne pas seulement aux deux, Jacques et Jean, même aux autres. Parce que quand le Seigneur enseigne, il connaît qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs de chacun et de chacune. Ceci doit vraiment aussi nous interpeller, comme Pierre pouvait dire au Seigneur, non, le Seigneur lui dit que je veux mourir, je veux souffrir. Il dit que non, cela ne t'arrivera pas. Parce que nous avons, notre évangile à nous, c'est l'évangile sans problème, sans difficulté. C'est comme ça que nous considérons. Mais des fois, le Seigneur, dans sa pédagogie, nous fait passer par certaines situations difficiles, parce qu'il continue à nous enseigner. Il voudrait voir comment nous avons confiance en lui, comment nous considérons la vie, comment est-ce que nous considérons les difficultés, ainsi de suite. Voilà, nous arrêtons là pour ce soir, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour la participation des uns et des autres. Nous avons été bénis par la présence de chacun et de chacune, par les interventions. Et ce qui nous reste maintenant à voir, le Seigneur nous demande aussi, comme il dit à ces deux, que désirez-vous que je fasse pour vous? Mais regardons qu'est-ce que nous sortons. Est-ce que ce que nous sortons va être édifiant pour l'Église, édifiant pour notre entourage, édifiant pour tout ce qui nous entoure? Est-ce que nous cherchons réellement le bien-être du royaume des cieux où nous voulons toujours des intérêts égoïstes comme Jacques et Jean. Voilà, nous arrêtons là. Nous n'avons plus assez de temps pour lire les commentaires dans le pain du jour. Le texte de la méditation de demain, donc nous allons terminer le chapitre 10 de Marc. Donc nous prendrons le texte de l'aveugle de Jéricho de 46 jusqu'à 52 dans certaines Bibles, dans d'autres versions jusqu'à 53, c'est la façon dont on a agencé cela. Voilà, à frères et sœurs, je vais juste demander une sœur à prier au début. Je vais demander au pasteur José des États-Unis de nous recommander à la grâce du Seigneur.
Oui, merci. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te bénissons de cette rencontre, cette méditation qui nous a montré le fond du cœur de tes disciples. Nous ne sommes pas différents, Seigneur. Nous pensons comme eux. Nous avons devant nous nos intérêts, mais nous ne voyons pas les intérêts du Seigneur. C'est notre frère, c'est celui qui vient avec moi dans la même ville, celui qui parle la même langue que moi, c'est ça mon frère, c'est ça ma sœur. Mais dans le Seigneur, nous sommes tous des frères et des sœurs, sans regarder la provenance. Seigneur notre Père, nous te bénissons parce que malgré cette difficulté de comprendre des disciples, tu ne les as pas écartés, tu les as toujours aimés, tu les as toujours enseignés, tu leur as enseigné ta voix. Et finalement, ce sont eux qui ont apporté l'Évangile au monde. Merci pour ta patience. Merci parce que nous-mêmes, nous sommes l'objet de cette même patience. Et il faut que nous, à notre tour, nous soyons patients à l'égard de nos frères et sœurs avec qui nous partageons la même foi. Nous te bénissons, notre Dieu, pour cette nuit qui est là pour nos bien-aimés d'Europe. Ils vont dormir, se reposer, que tu leur accordes une très bonne nuit de repos, pour que demain, nous croyons que nous serons ensemble pour continuer la méditation. Et nous le ferons toujours jusqu'à ce que tu viennes. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière, pasteur José. Donc, une dernière annonce, nous pouvons réécouter la méditation que nous venons de suivre à la radio FIMES. Il suffit d'écrire dans votre moteur de recherche que vous utilisez www.fimes.info, F comme femme, I comme Isidore, M comme maman, E comme école, S comme Simon, .info. Donc, vous pouvez réécouter la méditation que vous avez fait hier, qui est en train de passer régulièrement à la radio. Et même l'avantage, c'est que vous pouvez écouter la méditation de l'équipe de l'Amérique du Nord qui va méditer le soir le même texte. Tout passera, les deux méditations passeront à la radio. Peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur nous garde et à demain, à Dieu aidant. Amen.
Amen. Amen.